pour un peu vous faire un petit cadeau, j'ai amené
voilà
un petit CD avec quelques surprises. Alors je ne sais pas si on aura le temps de tout passer. Bon, il n'y a pas 18 heures non plus. Hein. Mais
n'abusons pas.
J'ai amené quelque chose. Alors on va commencer par la première, je pense. C'est une chanson que mon père a écrite dans les années 60, qu'il n'a jamais gravée sur disque. D'autres personnes l'ont fait, mais lui, non. Et ça, c'est un enregistrement public qui est d'une très bonne qualité technique. Et je vous laisse deviner.
Tu te balances, compagnon, comme une tringle dans le vent. Et le maroufle que l'on pend se fout pas mal de tes chansons. Tu peux toujours t'en mitoufler pour la saison chez Gallimard. Tu sais qu'avec ou sans guitare, on finit toujours sur les quais. La poésie fout le camvillon, y'a que du néant sous du néon. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. Si je parle d'une balade à faire avec mon vieux hibou, on me demandera jusqu'où je pense aller en promenade. On ne sait pas dans mon quartier qu'une balade en vers français, ça se fait sur dessous papier et sans forcément promener. La poésie fout le camvillon, y'a que des bêtas sous du béton. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. En 1960 et plus de tes juges, on a les petits, ça tient de famille. À ce que l'on dit, ça se fout une robe et t'es pendu. Tu vois, rien n'a tellement changé, à part le fait que tu n'es plus pour rimer les coups de pied au cul que nous ne savons plus donner. La poésie fout le camvillon, y'a que du néant sous du néon. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. Emmène-moi dedans ta nuit, qui est pas frangine avec la loi. J'ordonne qu'après mon trépas, ce qui est écrit soit écrit. Il y a des corbeaux qui traînent ici, peut-être qu'ils n'ont plus de pain. Et je n'attendrai pas demain pour qu'ils aient un peu de ma vie. La poésie fout le camp, François. Emmène-moi, emmène-moi. Nous irons boire à Montfaucon, à la santé de la chanson.
« 24 heures » avec Léo Ferré, sous les yeux bienveillants d'un hibou qui est au milieu de la table. Un hibou sculpté par Albert Mastry, qui est un peintre sculpteur de la région de Montpellier. La transition est tout trouvée, puisque le bestiaire de Léo est riche. Et je crois, Claude, que tu vas nous faire écouter, justement, Léo nous parler
des animaux. Parce que sans chercher... Oh là là,
ça va parler, Claude. Hein.
Sans chercher spécialement à faire des liens. On va quand même en faire une. On parlait tout à l'heure de certaines légendes ou réputations qui collent abusivement parce que c'est fabriqué par la rumeur, par des gens mal intentionnés, des gens qui racontent n'importe quoi. Donc concernant Léo Ferré, il y a quelque chose qui poursuit d'ailleurs toujours, si on en croit. Qui peut s'écrire, c'est sa vie à une époque dans le Lot et le fait qu'il vivait au milieu de beaucoup d'animaux.
D'un zoo.
Donc ça a été vrai. Puis après on a plaqué cette image-là et on a raconté parfois n'importe quoi. Ce qui m'a intéressé quand j'ai rencontré Léo, donc là c'était en 86 au mois de mai, c'était d'évoquer, comme tu le disais, là, ce bestiaire et donc sa relation avec les animaux. C'est sur le mini disque qui contient ces interviews. C'est la plage 7. Merci.
On connaît Pépé, on connaît le hibou et on connaît votre attachement pour les animaux. Vous avez tout un bestiaire qui à la fois, enfin je ne sais pas si vous vivez toujours avec beaucoup d'animaux, mais vous avez un contact, une façon de concevoir la relation avec l'animal qui est très physique et à la fois très... très intériorisé. Dans Et Basta, vous parlez de vos fureurs de cuisinier.
Oui. C'est bien, moi, c'est, j'ai rien de plus que les autres. Quand je mange bien je faisais, vous savez, quelques années. J'avais appris un peu comme ça par ma mère, je la voyais faire. La langouste et le homard, c'est quand on fait le homard, hein. À l'armoricaine ou à l'américaine, je crois plutôt que c'est à l'armoricaine, on lui faut le taillader vivant, n'est-ce pas, pour le mettre dans l'huile bouillante. Alors je faisais ça. Et une fois, en Italie, j'ai fait le dernier. Je ne ferai jamais plus ça. Et il y avait Marie, ma belle-sœur, mes enfants. Ils ont vu ça, plus ou moins, quoi. Que moi, j'ai été tailladé le homard, vivant. Sans penser que... Et je me suis rendu compte de ce que je faisais à ce moment-là. Il y avait l'huile bouillante. Ils sont tous mis à pleurer. J'ai vraiment été minable, vous savez. Eh oui. Ah, donc, des fois, je me dis, j'ai pas le droit de jouer les gens qui sont pour les animaux et qui disent il faut pas toucher aux animaux et tout ça. Et je continue à le dire, bien sûr, mais je ne suis pas tellement, enfin, un petit peu mieux que les autres, ceux qui les torturent, bien sûr, mais on n'a pas le droit de parler de ça quand on mange, quoi.
Si les bêtes savaient qu'on les met dans un plat.
Ah oui, c'est terrible ça. Ah oui. Si les bêtes savaient, comme vous dites.
Non, c'est vous qui l'a dit.
D'accord. Oui. C'est bien, oui. Mais si les bêtes savaient, oui. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit que si on ne mangeait pas les moutons et les vaches, on ne connaîtrait ni les moutons ni les vaches. Alors. Hein? T'as vu des mammouths déjà, toi? Oui, j'ai eu des chiens, des... J'ai toujours été comme ça, toujours là. La solitude habitée par des chiens, vous savez, c'est pas mal. Les gens savent pas ça non plus, quoi.
Voilà, là aussi, on est parti d'une relation anecdotique et puis on arrive à cette phrase, la solitude habitée par des chiens, c'est pas mal. Je crois que tu l'as fait tienne, cette phrase, sûrement, Mathieu.
Oui, mais moi j'ai un chien qui s'appelle Alma, d'ailleurs, Matrix. Enfin, pas Matrix, mais Alma, tout court. Et le chien, il est toujours avec moi, quoi. Et c'est sûr que, bon, c'est un compagnon, hein. Et puis, il fait pas chier, quoi. Quand tu te regardes dans les yeux, et puis tu le regardes, et puis, il y a un truc qui se passe, quoi. Et... Voilà. C'est sûr que je suis très près des animaux aussi, quoi. Même si des fois, je les mets dans les plats, parce que j'aime bien les manger. Il faut dire les choses qui sont, hein. Mais, voilà, quoi. Je sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, ça, moi, c'est pas moi, on n'est pas là pour parler de moi, hein, de toute façon.
Oui. Et faire la relation entre les animaux, les chiens en particulier, et puis ce morceau.
Les chiens, il y a toujours eu des chiens.
Et puis ce morceau mythique dans l'œuvre de ton père, qui est le chien.
Le chien, oui. Ouais. Ouais, le chien. Ouais, le chien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, ça, moi, j'ai rien à dire par rapport au chien, il faut l'écouter, quoi, si tu veux. Seule chose à faire, c'est l'écouter. Ceux qui le connaissent, ils se les réécoutent. Et puis ceux qui le connaissent pas, ils le découvrent. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le chien, moi? C'est, pour moi, c'est un texte unique, quoi. Magnifique, quoi. Plein d'autres. C'est le premier d'une longue série, quoi. C'est le premier du... C'est vrai que c'est le premier, quelque part, de cette façon d'écrire en prose libre, quoi. Cette façon de déclamer, de dire, de psalmodier, qu'il a répété après. Il y a quelques-uns qui ont essayé. Quand il avait fait Il n'y a plus rien, après, il y avait quelques temps après, il y avait Nougaro qui avait essayé de faire un peu, pas, je ne veux pas dire le copier, parce que non, mais un truc qui s'appelle Plume d'ange, je crois.
Plume d'ange, oui.
Bon. Et puis après, ça s'est un peu arrêté, puis là, on connaît le rap, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui disent c'est rappeur, Ferré, Valeur, tout ça? Je ne sais pas, je crois qu'il a son truc, son style. Qui n'est de toute façon inégalable et incomparable à quiconque, quoi. Moi, je connais pas. Moi, si vous en connaissez, allez-y, dites-moi les noms. Hein. Des gens qui ont fait des trucs comme ça, des textes aussi forts, bien écrits, aussi forts que le chat. Hein. Mm-hmm. Et de cette façon-là, voilà. Au moment où, en plus au moment où il le faisait, quoi.
Justement.
Pour mettre aussi les choses dans le contexte. Et puis, de toute façon, ça reste le chien, bien sûr, un truc. Alors, hein, quoi, les chiens. Oui, mais bon, par rapport aux animaux, je sais pas.
Ah, ben, c'est quand même un animal. Oui, mais c'est pas si évident de trouver une relation directe, comme ça, une espèce de même dimension entre les aspirations d'un homme et puis qu'il est relié au monde animal. Ton père aimait beaucoup la nature, de toute façon. C'est sûrement un autre lien aussi qui explique.
Oui, oui, c'est sûr qu'il aimait beaucoup la nature. Oui. C'est quelqu'un de la terre.
Bon, il y a Pépé, il y a les albatros, il y a le chien, d'accord.
Ça, il n'a jamais vu les albatros. Ça fait, moi, tout je ne connais pas. Je savais pas qu'il en avait. Hein.
Oui, oui, mais décoller donc philosophiquement de la condition humaine vers la condition canine, c'est pas si évident que ça. C'est ce qu'il a fait dans ce texte-là. Il aurait pu évoquer, il a évoqué la femme, ça c'est sûr, dans beaucoup de textes. Et je pense que les animaux, au-delà de l'aspect de l'époque Gourdon, Perdrigal et l'époque particulière, les animaux ont toujours une place dans l'esprit de ton père.
Je te sens que tu es un peu refroidi par ce truc-là. Là. Tu veux pas en parler, je sais bien. Tu m'as dit je veux pas en parler. Bon, on n'en parle pas. Mais. Les gens, ils comprennent pas là ce que tu dis là.
Ils savent bien, mais je pense pas que ça soit.
Non, c'est pas important de toute façon.
Que ça soit très important.
Mais de toute façon, mon père a toujours eu une passion pour les animaux, pour les chiens notamment quand il était petit et tout. Et il a toujours eu des chiens, je veux dire. Et...
Sur des pochettes de disques aussi, sur des photos.
Oui, bon, ça sert à rien.
Comment ça se bâtit une pochette de disque? On parlait tout à l'heure de fabriquer.
Oui.
On fabrique pas un personnage, dans ce cas-là, mais à certains moments.
Mais parce qu'il aimait le chien. Voilà, il les aimait, alors.
Voilà, donc on fixe une image.
Je pense que quand il m'a mis sur une pochette de disque qui est l'espoir, je pense pas qu'il m'ait mis, comme on lui a reproché de dire, vous utilisez des enfants de l'Amérique du Sud, parce qu'il savait pas que j'étais né, hein. Vous utilisez des enfants d'Amérique du Sud pour faire votre commerce, c'est dégueulasse, ignoble. Il s'est mis en colère, il a dit, mon fils, et je pouvais pas dire, parce que mon père était marié avec une autre femme, divorce et tout le bordel, et il pouvait pas adulterer. Et donc il pouvait pas dire que j'étais né. Donc le jour où il a pu le dire, il a dit à tout le monde, et de la façon la plus forte qu'il considérait, c'est-à-dire se mettre sur une pochette de disque. Point. Alors quand il a mis ses chiens sur des pochettes de disque, enfin avec lui, c'est parce que il les aimait parce que il avait envie de faire ça. T'en reviens au truc de se construire un personnage, toi.
Je crois que c'est une manière de s'exprimer aussi. Ouais. Fixer sur une photo, la photo avec Pépé, elle est très très belle sur un disque en noir et blanc, une pochette en noir et blanc, où il y a Mister Georgina, tout ça.
Les photos ne sont pas forcément aussi des mises en scène sur certaines de ces dernières pochettes. On le voit chez lui en Toscane avec votre chien.
Oui, mon père n'aimait pas poser de toute façon.
Voilà,
il y a eu un photographe à un moment qui lui a dit, alors on va se mettre comme ça. Il lui a dit, non, moi je ne pose pas. Moi. Mm-hmm. Tu me prends une photo quand tu veux comme ça, mais moi je ne me mets pas en pose. Donc les photos qu'on peut avoir, c'est des photos comme ça. Naturel, quoi. C'est pas des trucs qui s'est mis là, moi je vais faire le beau, je vais faire le ci, je vais faire le méchant, je vais faire le...
Et en plus, les photographes avec qui il travaillait sont souvent devenus ses amis, le plus ami, je pense
que
c'était
Hubert Potoclès. Oui,
mais il y en a eu d'autres.
Oui, il y en a eu d'autres que moi, on ne connaît pas, parce qu'après, il ne les a pas fréquentés, peut-être qu'il les aimait apprécier, il les aimait.
Mathieu, je crois que vient le moment, Jean-François, deuxième cadeau.
Voilà, du deuxième cadeau.
Parce qu'on a entendu la poésie Foulquin-Villon. C'est un moment unique.
Mm-hmm. Ouais.
On l'avait jamais entendu.
Merci.
On l'avait jamais entendu et ça se reproduira pas.
Oui, ça se reproduira un jour, oui, peut-être. On verra bien. Enfin, je suppose qu'ils ont fait comme disait le gars de France Inter, la France Culture, Avocat 7, là, comment il s'appelle?
Ah oui, Averti.
Avocat 7.
Alors, Avocat 7, hein, parce qu'il y a le second là qui arrive. Ça, c'est quelque chose que mon père a enregistré, mais c'est une version en public.
C'est une version qu'on ne connaît pas, oui. Et qui est très jazz.
Très jazz.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Donc, je crois que c'est Dieu et Nègre.
Avocat 7.
Avocat 7.
et avait dans la gorge à Jimmy tant de soleil à 300 balles, du blues, du rêve et du whisky, tout comme dans les bars à Pigalle. Dieu est nègre, c'est à la une des quotidiens. Ça fait du tort aux diplomates. Jimmy l'a vu au petit matin avec un saxo dans les pattes. Armstrong est reçu chez le président. Il y est allé sans sa trompette. Depuis le jour qu'ils sont là-dedans, c'est plus du blues, c'est la tempête. Dieu est nègre, il a de petits cheveux d'argent qui font au ciel comme des nuages, et dans sa gorge y a du plein chant. Comme dans les bars au Moyen-Âge, Dieu est nègre, et dans la gorge à mon Jimmy, y a tant de soleil à 300 balles, du blues, du rêve et du whisky, comme dans les bars à Pigalle. Dieu est nègre, à l'aube grise et toute gelée, Jimmy s'endort dans le caniveau en jouant de la trompette bouchée. Dans sa bouteille de Jéricho, pauvre et maigre.
Vous êtes sur Divergence FM, c'est 24 heures avec Léo Ferré. Il y a beaucoup, beaucoup de monde encore dans nos studios, 24 Boulevard Pasteur. Nous vous encourageons à venir nous rejoindre, à venir partager ces moments privilégiés avec Mathieu Ferré et puis avec tous les amis divergents. Nous accueillons Claude à présent.
Ah oui, les bonheurs. On va imploser là, parce que déjà, bon, on a Mathieu et puis qui est en pleine forme.
Je te parle.
Moi, j'ai rien dit.
Il est
donc, on va écouter Marie-Hélène Courtin.
On a eu une série d'interventions de chanteurs en direct qui étaient très bien. Et alors là, Marie-Hélène Courtin, je dois dire que ça nous ramène au mois de juillet à Montbazin, une semaine, un hommage, mais qui a duré plus d'une semaine, pictural et chanté à Léo Ferré, qui s'était intitulé De toutes les couleurs. Marie-Hélène a participé à la soirée qu'il a terminée en présence de Marie Ferré.
Oui, ma mère, donc.
Voilà. Your mother, la maman, tu peux te lâcher, elle écoute pas, elle est trop loin.
Et tu vas lui faire une copie, elle va tout m'écouter là.
Elle a des espions un peu partout, effectivement. Et Marie-Hélène est revenue un peu moins loin, parce qu'elle vient du Gard, alors c'est quand même assez loin, hein, c'est connu. Bon, Marie-Hélène Courtin est du Gard, voilà, on dit ça en général. Bon, voilà, par exemple, tu vois, on fabrique, tac, on fixe un truc, elle est du Gard. C'est terrible, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu es du Gard, mais bon.
Je voyage beaucoup, entre 40 km, hein,
Et alors, on est aussi très heureux parce que récemment, elle a publié un disque où elle relate sous forme de chronique des pans entiers de sa vie, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ce disque très très beau.
Et,
et puis là, ben, c'est Léo Ferré et ce sont
avec
des morceaux
qu'on a... Avec le piano à bretelles.
Le piano Barbarie. Oui, oui,
avec son piano,
avec son piano
à bretelles.
Oui, 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 et on va avoir deux morceaux, Barbarie et puis...
L'île Saint-Louis.
L'île Saint-Louis. Merci beaucoup, Marie-Hélène Courtin.
Dans la rue anonyme, il y a partout des Jésus qui vont quitter leur dîme avec des yeux battus. Barbarie, donne-lui quelques sous. Barbarie, on s'attend aigre doux. Barbarie, après tout, je m'en fous. Dans la rue où l'on pêche, il y a des filles de l'amour qui mettent leur chair fraîche à l'étal des carrefours. Barbarie, garde donc ton écu. Barbarie, c'est toi qui l'as voulu. Barbarie, le remède est connu. Dans la rue à nos yeux, il y avait un assassin qui donna la saignée aux gentils pèlerins. Barbarie, ce fut accidentel. Barbarie, en sortant de l'hôtel. Barbarie, le péché fut mortel. Dans la rue infernale qui nous mène au sapin, lave ton linge sale, mais prends garde aux pépins. Barbarie, si tu veux de l'amour. Barbarie, méfie-toi des discours. Barbarie, le bonheur est si court. Si tu veux de l'amour, Barbarie, méfie-toi des discours. Barbarie, le bonheur est si court.
Merci Marie-Hélène Courtin. Claude, on va la laisser s'installer puisque elle va laisser son piano à bretelles pour prendre un vrai piano, celui de Bruno Degaille qui accompagnait tout à l'heure Michel Avallon. Voilà, tout le monde s'active à Divergence. Quelqu'un vient de nous rejoindre. Elle est pas là. Elle va peut-être rentrer tout à l'heure. C'est Catherine Boulanger. Catherine Boulanger, donc tu vois, tout est possible.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Donc Catherine.
On se rappelle évidemment la chanson dédiée à Léo qu'elle a chantée à Montauban en particulier, dont elle a fait un disque.
Voilà, on la recevra peut-être tout à l'heure pour qu'elle nous en parle.
Oui,
qu'est-ce que tu en dis?
Oui. Hein, oh, je sais pas si on va tenir le choc avec toutes ces émotions. Mathieu, est serein.
Que d'émotions. Oui, Mathieu.
Oui, je crois que je l'ai jamais vue, Catherine. Donc je la connais, enfin, je la connais. J'ai entendu son disque, mais je
une très très belle chanson, d'ailleurs, que tu avais mis aussi en intro à la dernière soirée de Mon Bazin cet été.
Voilà, c'était le disque qui ouvrait comme ça. Elle n'était pas là, mais c'était. C'était après la diffusion d'un premier disque, d'ailleurs. On commençait par diffuser des disques, mais après c'était du vivant, hein. On commençait par diffuser évidemment De Toutes les Couleurs, qui est un morceau. Franchement, tu m'as pas demandé quel était mon. C'est dément, une question comme ça. Des fois je me dis.
Oui, alors, c'est dément.
C'est dément.
Mais j'aurais pas osé.
Tu vois, c'est un morceau qui n'est pas parmi les plus connus, parmi ceux qui connaissent beaucoup l'œuvre de Léo. Il y a ce morceau-là, il n'est pas parmi les plus connus. Je crois qu'il est méconnu, même, je dirais.
Mais c'est un morceau.
Je trouve que c'est un morceau. C'est extraordinaire.
C'est un morceau qui est plutôt dans la dernière partie de l'œuvre de Léo. Et avant De Toutes les Couleurs, alors. Avant que De Toutes les Couleurs.
Ah, ça, c'est perverse.
Cueille ton cœur. Quel était le morceau avant?
Avant la période moins connue qu'elle était, donc dans la période plus connue, pour que tout le monde puisse un peu se retrouver, c'est ça en fait.
Oui,
c'est ce que tu voulais dire.
Il y en a tellement. Moi, celle que j'ai découverte récemment, finalement, et qui alors bien avant, c'est L'été s'en fout. Je trouve ça d'une modernité, d'une écriture. C'est la date de quoi, 51 ou...
Là, on passe de
c'est dans le bon sous-déo.
Oui, alors.
56. L'été s'en fout. Extraordinaire.
Je crois que Marie-Hélène est prête pour interpréter L'île Saint-Louis.
L'île Saint-Louis, en ayant marre d'être à côté de la cité, un jour a rompu ses amarres, elle avait soif de liberté. Avec ses joies, avec ses peines, qui s'en allaient au fil de l'eau, on la vit descendre la Seine, elle se prenait pour un bateau. Quand on est une île, on vogue tranquille, au cœur de la ville, c'est ce que l'on dit. Mais un jour arrive, on quitte la rive, en douce on s'esquive, pour voir du pays. De la mer noire à la mer rouge, des îles blanches aux îles d'or, vers l'océan où rien ne bouge, où on a trouvé l'île au trésor. Mais tout au bout de son voyage, vers un endroit peu fréquenté, on lui raconta le naufrage. L'île au trésor s'était noyée. Quand on est une île, on vogue tranquille, trop loin de la ville, malgré ce qu'on dit. Mais un jour arrive où l'amant délire, on songe à la rive du bon vieux Paris. Saint-Louis a de la peine. Du pôle sud au pôle nord, l'océan ne va pas la Seine, le large ne vaut pas le port. Quand on a trop de vagues à l'âme, mourir un peu n'est pas, paraît-il, quand on est île à Notre-Dame, on prend le temps de réfléchir. Quand on est une île, on reste tranquille au cœur de la ville. Moi, je vous le dis, pour les îles sages, pas de grands voyages, les livres d'images se font à Paris, à Paris, à Paris.
Claude, on va encore peut-être écouter, on va te laisser.
Oui, moi j'aimerais faire le lien, retrouver une interview de Léo Ferré. Et là, Léo répondait à la question bateau, certes, concernant les femmes. Bon, c'est un thème, il a été reproché souvent, d'ailleurs, par pas mal de femmes, d'avoir une approche misogyne, disons, ou un peu raide des femmes, un peu dure. Le propos, c'est vrai, c'est parfois était parfois un peu grinçant, il s'est adouci aussi à certains moments. Là, on était en 86. Donc la question lui était posée. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il parlait admirablement bien des femmes. Mais bon, je ne suis pas une femme, n'est-ce pas? Donc c'est sujet à caution, ce que je pense. Léo Ferré.
On ne peut pas parler avec Léo Ferré sans parler de la femme.
Oui, pourquoi?
Parce qu'il n'y a que vous qui en parlez.
Ah oui?
Aussi bien.
Ah bon, moi je trouve que la femme vient de la mer, quoi. C'est important, et puis c'est... Et puis... faut se les faire, quoi. Comme on dit, la femme, c'est plutôt littéraire. Moi, je vis dans un roman tous les jours. Alors, des fois, on comprend pas bien ce que moi, je comprends. Voilà.
Vous avez connu beaucoup de femmes?
Non. Ça a été très dur. Moi, j'ai une époque, le Moyen-Âge, que... Vraiment, quoi. Pour trouver une fille, c'était terrible. Les filles n'y venaient pas. Puis j'avais les lunettes. Parce que j'étais un peu myope. Et jamais personne ne m'a dit enlève tes lunettes. Ce que j'aurais dû faire. Mes lunettes m'ont empêché de notamment, des tas d'aventures. Quoique les aventures, c'était très rare parce que les filles, ça ne marchait pas, quoi. Tout, mais pas ça. Et puis, c'était même pas tout, mais pas ça. C'était un peu, mais pas ça. Et alors, toute cette libération d'aujourd'hui, je trouve que ça... Même malgré... Des gens disent, mais c'est abusif, tout ça. Je trouve ça très, très bien qu'il y ait cette libération, non, quand même. Hein. C'était terrible, vous savez. Il n'y a pas possible. Moi, j'avais pas de... Je ne me souviens pas d'une femme que j'ai pu aimer en faisant l'amour avec elle plusieurs jours, plusieurs temps, quoi. Non, plusieurs, je sais pas moi, quelques semaines, quand même. Je n'hésite pas, quoi. Je sais pas qui est, il n'y en a pas, quoi, vous comprenez? Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde? Le 20e siècle, qu'est-ce que c'est le 20e siècle? C'est l'époque bourgeoise, par excellence, quoi. C'est pire que tout. Le 20e siècle, c'est le surréalisme, la bombe atomique et l'église. Voilà. Alors merde. Et ça continue. La morale bourgeoise. Ça existe. La morale bourgeoise, la bourgeoisie, c'est pas forcément les sous, l'argent. Lorsque la misère ou la demi-misère se met à être bourgeoise, c'est la fin du monde. Et c'est trop... La plupart du temps, c'est comme ça. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est terrible.
Alors, Léo Ferré se félicitait de la libération de la femme. Mais Mathieu, je vais continuer à me faire l'avocat du diable.
Oui, ça, je te connais bien.
Ça me plaît énormément. Et bon, certaines femmes, beaucoup, enfin, te diront... si tu leur poses la question par rapport à leur libération, te diront qu'il n'y a pas tellement contribué, parce que à une époque, quand ils gueulaient mes débats, qu'ils célébraient les bas par rapport aux collants, bon, ça, c'était des trucs qui agitaient beaucoup les féministes, bon, qui voyaient là-dedans un symbole de phallocratie. Léo avouait clairement préférer les bas aux collants et donc n'était pas dans la mouvance féministe.
Mais ça, c'est un truc... Hein? D'abord, c'est un truc de... Ouais. Plutôt qu'ils rejoignent l'érotisme, je pense, par rapport à... Enfin, il me semble, moi. Me semble que c'est plus agréable des bas que moi aussi. Enfin, moi, de toute façon, moi, il paraît que je suis un macho, alors. Moi, qu'est-ce que je te dis, moi? Alors, moi, je préfère pas trop aborder le sujet. De toute façon, comme je t'ai déjà dit, on n'est pas là pour parler de ce que je pense, moi. Hein.
Non, mais par rapport à ce que... Comment tu vois ton père par rapport à ça?
La libération de la femme, je ne sais pas du tout.
Une époque de tous les tabous.
Je
ne
sais pas quoi te dire par rapport à la libération de la femme. Si la femme doit être libérée et puis elle ne l'est pas, ben, elle a qu'à se démerder pour se libérer, quoi, je veux dire. Je ne sais pas. Quoi. Je ne vois pas qu'est-ce que vient faire là-dedans Léo Ferré, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, pour la libération de la femme. Je veux dire, je ne vois pas du tout. Là, ça, c'est mystérieux pour moi. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour la libération de la femme? Ou qu'il aurait pu faire?
Ah non, mais ce que lui reprochaient certaines féministes, c'était qu'il perpétuait, si tu veux, l'objet sexuel, avec cette histoire de bas, apparemment, on a entendu ça.
Ah bon, moi je ne l'ai pas entendu.
Oui, c'était trop jeune.
S'il y a des féministes qui ont dit ça, moi je ne sais pas, moi je ne ferai pas quand même pas de féministes, alors je ne sais pas quoi dire. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il était, comme il dit, moi je me rappelle l'interview qui est à bout portant, qui se dit, je suis en admiration devant une femme. Je me mets à genoux, je me mets sur un piédestal, la femme, c'est... Là, c'est lui qui parle, hein, moi, c'est pas moi. Hein. Il dit que c'est cet être qui donne la vie, et c'est merveilleux, c'est la plus belle chose qui puisse exister au monde. Donc, il y a de l'admiration devant la femme. Donc je vois pas, moi par rapport à ce truc de...
Il y a des pages merveilleuses sur
l'égalité, tout ça, je sais pas. Je veux dire, un homme peut se sentir inférieur à un autre, ça veut dire quoi, ça, pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Quoi. J'arrive même pas à comprendre qu'on puisse se poser la question, quoi, l'égalité, quoi, oui. S'il se sent inférieur, si une femme se sent inférieure par rapport à quelqu'un d'autre, ça se sentira toujours inférieur. Et un homme, c'est pareil, un homme peut se sentir inférieur par rapport à une femme ou à un homme.
Oui, mais si tu veux, ton père savait se positionner en termes sociaux.
Par rapport à quand il a divorcé de sa seconde femme, il a eu, on va dire, un peu de véhémence contre les femmes. Ce qui est compréhensible, parce que quand tu te fais emmerder, en l'occurrence par une femme, t'es un peu énervé contre les femmes en général.
T'as tendance à généraliser.
Voilà, mais après, comme tu viens d'entendre, tu te calmes, tu te poses, et puis de toute façon, tu continues ta vie, et voilà. Donc sur le moment, c'est sûr qu'à un moment, il a été un peu, en disant, moi, les femmes intelligentes, pourtant, il dit, moi, chez moi, il ne rentrera plus jamais une femme intelligente. C'est fini, terminé.
Oui, dans cette émission, donc, pourtant, il disait
aussi. Oui, il dit ça parce qu'il
disait aussi que la femme pensait avec ses ovaires, par exemple.
Oui, voilà. Non, mais d'accord, mais il faut. Non, mais ça, c'est trop.
Voilà, effectivement,
facile,
il faut
c'est
le
un
ramener.
Là, c'est ce que tu dis aussi.
Non,
là,
je
t'es
sais
un
pas.
Peu
ah,
genre
sais...
le rôle, le journaliste à la Rolls, là.
Je vous propose une chose, là. C'est un. Vous parlez des femmes, mais vous êtes deux hommes. Alors, on va lancer un appel aux auditrices qui écoutent.
Oui, surtout chez
vous. Et on va leur demander de nous appeler, là, tout de suite. Donc, il y a des auditrices qui ont envie de réagir au propos de Mathieu Ferré et de Claude sur les femmes, non mais ça vaudrait le coup.
Je vais me faire démonter, j'ai dit que j'étais macho, moi, alors
on peut continuer, mais
il y a des pages
04 67 66 33 33.
Il y a des pages magnifiques qui disent que la femme vient de la mer, qui évoque la marée en robe noire,
et puis aussi
le sang des menstrues, et qui donne une dimension
Oui, et puis aussi, j'ai souvent rêvé de monter derrière une femme dans un escalier très étroit et voilà ma main collée à son X. In à la Matrix. C'est merveilleux, ça. J'ai souvent rêvé de monter dans un escalier très étroit derrière une femme et voilà ma main collée à son X. Moi, j'aimerais bien coller des mains aux X. Mais ce que je veux dire... Alors là si t'es mauvais, tu peux dire, voilà, la femme, objet sexuel, non. Alma Matrix, en quelque sorte, c'est un hymne à la femme, quoi. Si tu le lis, de la façon, moi, je le ressens, je le lis. Moi, les femmes qui ont lu Alma Matrix, qui m'en ont parlé, m'ont dit que c'était... qu'elles n'avaient jamais lu un truc aussi beau et écrit comme ça pour une femme, quoi. Donc c'est pas fait quelqu'un par misogyne, quoi. De toute façon, mon père... Alors après, oui, effectivement, dans certaines périodes, il a été un peu en colère contre sa femme. Donc, il a un peu généralisé, voilà. Donc mais de toute façon, comme il dit, il le dit toujours, quoi. Il a l'admiration devant les femmes. De toute façon, il les met sur un piédestal, comme il dit. Dans un autre texte, qui s'appelle Mathusalem, qui est un peu adressé, paraît-il, il dit, Mathusalem, méfie-toi des femmes. Enfin, je ne vais pas le dire, parce que elles vont téléphoner tout de suite.
Si, ben, il faut les faire
Mathusalem,
réagir.
Mathusalem, méfie-toi avec des femmes qui ont la tête plus haut que le cul, quoi. Voilà, bon. C'est vrai que ça aussi, c'est un peu, quelque part, comme tu dis, misogyne, quelque part. Je ne sais pas, ça peut être interprété aussi de cette façon-là, mais c'est aussi par rapport à son vécu, je pense, et puis plein de choses, quoi.
Dans le CD enregistré à l'Alhambra en 61, il chante les femmes et le public est enthousiaste quand même. Il se fait pas siffler.
Oui, mais ça, c'est plus... Oui, mais là, moi, les femmes de cette chanson-là, oui. C'est l'époque Barclay. Il est... Moi, je sais pas quand même cette époque-là, Barclay. C'est un peu plus joli môme aussi, tous ces trucs-là.
Oui, et puis tout ce qui est beaucoup plus érotique, comme ta source.
De toute façon, il y a énormément d'érotisme. Chez Gainsbourg, oui. Tout le monde dit Gainsbourg, l'érotisme, tout ça. Chez mon père, il y a autant.
Ta source, par
exemple. Mais ta source, c'est pour moi, c'est.
Cette blessure.
C'est une des plus belles chansons.
Cette blessure, bien sûr. Est-ce qu'on a fait mieux que cette blessure? La réponse est continuer dans la question.
Mais pour en revenir à. Moi, je vois de l'érotisme partout dans ce que écrit mon père. Peut-être parce que je suis un peu.
Non.
Passionné par ça, mais. Enfin, passionné, on va pas quand même exagérer, mais. Mais c'est vrai que je vois de l'érotisme partout, moi. Et c'est bien, moi, ça me plaît bien. Moi,
je pense que là aussi, tu es le fils de ton père, il n'y a pas de problème.
Oui, ah bon. Bref. Donc il n'y en a pas des nanas qui...
Ben, pour l'instant, personne n'appelle, mais si elle le souhaite, si des auditeurs... Un morceau totalement inédit que Mathieu nous a amené, un morceau que vous avez récupéré sur les nombreuses bandes de votre papa.
Oui, sur une bande. J'allais faire une, je sais pas ce que j'allais dire, une connerie. Oui, c'est en fait, je pense que c'était, il avait un projet avec Philippe Forastier, qui était un metteur en scène. Il devait faire un film et il devait jouer en tant qu'acteur, il devait faire le rôle de Saint-François d'Assise, un djinn. Voilà, mon père. Oui. Et donc, il y avait le scénario qui était écrit, et puis donc le réalisateur avait demandé, donc ce monsieur Philippe Forestier avait demandé à mon père de faire la musique. Donc, il avait fait comme ça plusieurs thèmes. Ça, c'est le premier thème, ça s'appelle François, le thème de François. Donc, après, ça aurait été sûrement développé, un studio avec un orchestre et tout, je ne sais pas ce qu'il en aurait fait, mais ça, c'était, on va dire, le thème qu'il avait composé au piano pour cette musique de film qui, en fait, ni le film ne s'est jamais fait, ni la musique, rien du tout.
Il arrivait sur une moto, dans le scénario, et il disait il n'y a plus rien. Enfin, ça aurait été un film, un truc.
Ouais.
J'ai l'impression que le micro passe pas. Si, si, voilà. On parlait de dames tout à l'heure, oui. De femmes. On a la chance d'avoir avec nous, on l'a annoncé, Catherine Boulanger. Bonjour Catherine, bonsoir.
Bonjour tout le monde. Bonsoir.
Catherine, est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés ?
Par hasard.
Ben, je me rappelle surtout, oui, c'était un moment un peu triste d'ailleurs. Hein.
Oui.
Donc, je venais de composer la. Je venais de composer, c'est ça, hein, la chanson pour Léo, qui n'était pas gravée nulle part. Et on a appris
voilà,
cette Léo, et vous avez su que j'avais fait cette chanson. J'avais que la maquette, et vous avez... Enfin, j'avais que...
C'est pas exact. Non, c'est non, pas c'est, exactement comme
non,
ça.
Non, 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 mais parce que...
C'est pas exactement comme ça.
Je peux tutoyer, je suis
bien sûr.
Cette chanson, tu l'as chantée à Montauban en voilà. Présence de Léo, donc tout c'était en mai 92.
Tout à fait, hein c'est ça.
Mais on s'est rencontrés. Voilà, je vais quand même rappeler comment on s'est rencontrés, parce que c'est quand même... Je me rappelle de ce moment comme un moment très très fort. C'était le jour où on a appris le décès de Léo, de votre papa. Et on avait fait une émission spéciale sur Divergence FM.
Oui, oui.
Et Catherine écoutait Divergence FM à ce moment-là. Et Catherine a appelé et nous a dit, voilà, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Pour Léo ». Et cette chanson, je peux vous l'amener, ou alors est-ce que quelqu'un peut venir la chercher? Et on est venu la chercher chez toi, et on l'a diffusée, et il y avait une émotion ce jour-là, tout à fait incroyable, et ça nous a permis, après, d'une part, de faire connaissance, et puis aussi, ça nous a permis de connaître cette merveilleuse histoire que Claude évoquait, et que tu vas nous raconter. Cette chanson, elle est née pour...
Oui, c'est ça, c'était donc... au festival de Montauban, où donc je faisais la première partie de Léo, et j'avais fait des concerts à Montauban, plus la première partie de Léo. Et donc l'hommage pour Léo, c'était, je ne savais pas exactement ce que c'était du reste. Et en fait, c'était que tous les gens qu'il aimait bien, et tous les artistes... Ah, j'ai pas de micro ? Ah bon, que tous les artistes qu'il aimait bien, il y avait Moustaki, il y avait Safo, il y avait plein de gens comme ça. En fait, il chantait une chanson de Léo. Et donc, quand on m'a appelé, moi j'ai dit, mais une chanson de Léo, et pourquoi pas une chanson pour Léo? Et là, le directeur du festival m'a dit quand même, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je dis, je sais pas, mais pourquoi pas, quoi. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai écrit cette chanson pour Léo. Mais moi, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Je pensais que c'était comme un espèce d'anniversaire où il y avait Léo, quelques personnes. Et puis moi, j'allais lui faire ma petite chanson comme ça, et pas du tout, en fait, c'était en public, dans un grand théâtre, etc. Et donc, me voilà à chanter cette chanson pour Léo. Léo était dans les coulisses et moi, j'étais devant tout le monde. Et donc, j'ai chanté cette chanson qui a bien plu à Léo et qui a bien plu aux autres aussi. Mais moi, c'est sûr que c'était comme une lettre. Et jamais j'aurais pensé en faire un enregistrement ou la chanter plusieurs fois dans ma vie. C'était juste pour cette occasion-là que je l'avais faite. Et je trouve qu'après, il y a des tas de gens. Enfin, si vous voulez, les gens qui aimaient Léo. C'était pas les gens qui aimaient Catherine, c'était les gens qui aimaient Léo qui ont voulu que j'enregistre cette chanson. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Léo... en lui disant, mais c'est ta chanson, moi, c'est une lettre, c'est à toi, donc est-ce que tu veux que je l'enregistre? Et Marie et Léo m'ont dit, mais bien sûr, il faut l'enregistrer. Et justement, et quand j'ai eu fini, je suis sortie du studio, je lui ai envoyé la première, enfin le master juste, ouais. Du disque, quoi. Puis c'est là que voilà, tout il est parti, mais il a eu le temps de l'écouter quand même une deuxième fois. La première fois devant lui, une deuxième fois aussi parce qu'on a fait ensemble d'autres choses après. Et puis, voilà, sur ce disque, vous avez été les premiers à voir l'enregistrement, tout du moins.
Et tu es allé la chanter en Italie, à San Benedetto del Tronto.
Je suis allée la chanter en Italie parce que j'avais été invitée dans un autre festival. Puis ça m'a donné l'occasion d'aller chez Marie. Mm-hmm. Donc j'ai sa maman, qui est extraordinaire. Ses sœurs, enfin, j'ai trouvé une ambiance géniale là-bas. Et en plus, Marie, elle a donné des, elle avait donné le disque à une chorale. Et à tous les enfants, alors elle m'a envoyé la vidéo. Et on voit tous les gosses, enfin les petites jeunes filles, c'est trop génial, avec l'accent hyper italien qui chante la chanson de Léo. Moi, j'ai, c'est super. Donc j'ai la vidéo à la maison et tous les élèves m'ont écrit. Donc j'ai des piles de courriers comme ça, d'élèves en Italie qui ont chanté la chanson pour Léo et qui me connaissent que comme ça en fait, qui me connaissent que comme l'auteur de cette chanson. Voilà.
Je crois aussi que tu l'as chanté à Sauve en première partie de Becco. Je me trompe?
J'ai chanté en première partie de Becco, mais je sais pas si j'ai fait cette chanson sûrement. Parce qu'après, effectivement, elle m'a été beaucoup demandée. C'est-à-dire que moi, le truc, c'est que c'est sûr qu'après, j'ai reçu des courriers sensationnels, quoi. J'avais jamais vécu un truc comme ça. Déjà, avec Léo, ça a été super. Après, avec sa maman, ça a été extraordinaire. Avec sa mère, enfin, moi, Marie, je l'adore, quoi.
Vraiment. Ah, c'est un personnage, j'aime ma mère, hein.
Oui, parce que, en fait, ça s'est passé. Alors, maintenant qu'il est là, je peux raconter un truc vraiment un peu intime.
Pourquoi si j'avais pas été là?
Parce que maintenant, je la connais et tout ça, mais sur le coup, ça m'avait ému parce que, en fait, l'histoire, c'est que je compose cette chanson, donc, pour Léo, et je lui écris quand même sur un parchemin. Et je fais pas la musique, c'est comme une lettre, quoi. C'est comme une lettre. Et donc, au dernier moment, je vois tous les gens, Nicole Croisy, etc., qui arrivent et tout ça en chantant des chansons de Léo. Et moi, tout d'un coup, je me dis, mais je vais pas aller quand même chanter. Moi, je vais arriver, bonjour, moi, j'ai fait une chanson pour lui. C'est moi qui ai fait les paroles et la musique et tout. Donc, j'étais un peu comme ça. Et juste à ce moment-là, on me dit, mais c'est une chanson. Alors, personne ne savait ce que c'était, tu vois. Puis, il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est une chanson d'amour. Je sais pas si on veut, quoi. Enfin, tu la connais, enfin. Je dis oui, si on veut. Ah, mais oui, mais alors bon, Léo, sa femme, quand même, peut-être elle va être jalouse. Ça se trouve, elle va être jalouse, etc. Moi, fracassée dans la nuit, en me disant, je l'ai pas vue comme ça, mais moi, je voudrais peiner personne. En plus, je la connaissais un peu, Marie, mais bon, j'avais fait les premières parties de Léo, donc je la connaissais, mais je lui dis, ah bon. Et d'un coup, je me suis plus sentie du tout, moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est, quand je me suis rendu compte que c'était devant tout le monde et tout, j'ai dit, je vais prendre le parchemin. Et je vais aller le mettre dans sa loge. Et c'est tout. Voilà. Je fais ça. Et tout d'un coup, alors là, ça a été extra parce que je fais ça. Et tout d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre au bout de, je sais pas, 20 minutes. Il y avait Marie qui était là dans la loge. La porte s'ouvre. Il y a Marie qui dit, elle est là, Catherine Boulanger? Moi, j'arrive. Moi, je me dis, oh là là, pourvu que c'est pas... Moi, j'avais mis mon cœur et tout. Et Marie qui me dit, t'as écrit cette chanson? Tu comptes la chanter? Alors, je dis, je vais pas faire
ça, bon.
Tu vas la chanter. Il faut que tu chantes ça, Léon. Tu vas chanter ça, Léo. Je l'ai lu, tu vas la chanter. Je dis, mais j'ai à peine fait la musique. Tu y vas, chante ça. Alors du coup, ça m'a donné un peps pas possible. Et quand on m'a appelé, j'y suis allé vraiment avec Marie qui était là et tout le monde qui était heureux, quoi. Qu'est-ce qui en peut mieux arrêter, c'est ça?
Non, pas du tout. Et l'émotion, elle était comment, là? Comment battait ton cœur à ce moment-là?
Là, c'était affreux. C'était affreux parce que il y avait Léo qui était derrière moi, enfin dans la coulisse. Moi j'étais devant les gens et je chantais que pour lui, quoi. Et moi d'habitude quand je chante, je chante devant tout le monde, quoi. Et là je voulais regarder personne. J'étais complètement dans mon truc et je dis, j'espère qu'il écoute parce que je vais la faire une fois dans ma vie, quoi. Et puis il écoutait en fait. Et après le truc c'est qu'il est sorti, quoi. Il est venu me rejoindre sur la scène et là alors. Parce que moi, déjà, j'arrête de chanter. Je crois que les gens, ils allaient un peu applaudir, manière. Personne n'applaudit. Je t'assure. Je finis le truc. J'étais complètement. Alors, je fais la musique au moment. Mmh. En même temps que je chante, quoi. Avec des accords qui me rappelaient Léo, quoi. Et puis, personne n'applaudit. Il se passe rien, quoi. Le trou noir. Et moi, j'étais tétanisée. Et Léo qui arrive. Et qui me prend comme ça. Et alors, en plus, comme je disais, je veux être une chanson de Léo. Il me prend. En plus, il était habillé tout en noir. Grand, tout habillé en noir, et moi j'étais petite, tout habillée en blanc, et on est parti comme ça. Alors là, ça a été terrible, quoi. Parce que tout le monde pleurait, Moustaki pleurait, Safo pleurait, tout le monde pleurait. Tout le monde, c'était beau, quoi.
Voilà. Il y a une trace de ça, puisqu'il y a eu un film qui a été tourné par FR3 Midi-Pyrénées, il a été diffusé partout.
Mais ça,
quoi.
C'est sur matin, quoi. Là, ils l'ont rediffusé.
Oui, ça a été diffusé, donc voilà, il faut faire des copies, regardez ça, c'est formidable.
Et puis on a le CD, évidemment.
Oui, parce qu'elle va pas nous la chanter en direct.
Elle ne va pas nous la chanter en direct, bon. Non. On a la chance quand même d'avoir ce CD que tu nous avais amené, le fameux jour. Et puis on va l'écouter, hein. On va l'écouter. Tout de suite, c'est Catherine Boulanger pour Léo.
aimer, être une chanson de toi, pour naître sur tes lèvres et vivre par ta voix, m'endormir dans tes rêves, m'éveiller sous tes doigts. J'aurais aimé, Léo, être une chanson de toi. J'aurais été un peu de l'air que tu respires, j'aurais été l'aveu d'un moment qui t'inspire, né d'un profond désir ou d'une simple émotion, venu de tes plaisirs ou de tes rébellions, cri d'amour ou de haine. J'aurais su délivrer ton âme de sa peine, ton cœur de ses secrets, en jaillissant de toi, pour briser le silence, pour exprimer ta joie ou ta désespérance. J'aurais eu tes éclats de vers et puis de rimes pour traduire tes émois, même les plus intimes, et tu m'aurais gravé dans la chair d'un vinyle pour que l'éternité témoigne de l'idylle. Coulé dans ce sillon, le flot de tes paroles aurait en tourbillon creusé mille rigoles. Alors au fil des ondes, on serait venu boire à ta source féconde dont je fus le miroir. Léo, j'aurais aimé être une chanson de toi, pour naître sur tes lèvres et vivre par ta voix, m'endormir dans tes rêves, m'éveiller sous tes doigts. J'aurais aimé, Léo, être une chanson de toi. J'aurais craint quelquefois que tu ne me délaisses, que je ne sois plus pour toi qu'un écho de tendresse, que nous ne vivions plus au même diapason, que tu te sentes ému par d'autres vibrations, que tu veuilles changer d'air au profit des accords dont ton imaginaire recèle les trésors, que la petite nouvelle que tu viens de te faire te semble la plus belle, puisque c'est la dernière. Mais lors d'autres chanteurs succombant à mes charmes m'auraient prise dans leur cœur avec tellement de flamme que m'écoutant séduit au travers de leur voix, je t'aurais reconquis pour la deuxième fois. Tu aurais retrouvé la saveur des écrits que tu m'avais donnés pour me rendre jolie, et tu m'aurais reprise à ton tour de chant, à Paris, à Venise, Marseille ou Montauban. Léo, j'aurais aimé être une chanson de toi, pour naître sur tes lèvres et vivre par ta voix, m'endormir dans tes rêves, m'éveiller sous tes doigts. J'aurais aimé, Léo, être une chanson de toi. Lorsque ma vie d'artiste cessera de tourner, s'il se peut qu'on choisisse comment réexister, si on ne part qu'en coulisses, mais que tout n'est pas joué, moi, je dirais, je veux être une chanson de Ferré.